Bonsoir à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 14 et verset 2. Un texte que vous avez peut-être lu des dizaines de fois, peut-être des centaines de fois, mais que nous allons relire encore en y croyant ce soir. Psaume 14 verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dans les psaumes, au chapitre 53 et au verset 3, la même chose est répétée. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et dans la parole de Dieu, quand quelque chose est répété plusieurs fois, c'est pour nous certifier que c'est une chose sûre, à laquelle on peut s'attendre, à laquelle on peut croire. C'est quelque chose, si Dieu le répète deux fois dans sa parole, c'est qu'il le fait. Il regarde du haut des cieux, sur la terre, s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui le cherche. Et on est rassuré dans Jérémie chapitre 29 et verset 13. Jérémie chapitre 29 et verset 13, il y a pour nous ce soir encore une promesse. Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. J'espère que ce soir, il y a des hommes, des femmes qui ne sont pas là pour faire acte de présence, mais aussi, et surtout, pour chercher Dieu. Parce qu'ils ont envie de chercher Dieu, chercher à le reconnaître, à le connaître, à le rencontrer encore ce soir, à savoir qui il est et ce qu'il veut pour lui ou pour elle. On incline nos fronts encore une fois. S'il vous plaît. Éternel, oui, nous sommes ici, devant toi. Tu as dit que tu étais dans ce lieu, puisque tu nous l'as promis dans ta parole, que lorsque deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu as dit aussi, Seigneur, à tes enfants, à ceux qui t'ont cherché, qui t'ont rencontré, que tu ne les abandonnerais jamais, que tu seras avec eux jusqu'à la fin du monde. Alors oui, nous sommes sûrs, tu es avec nous, et celui qui te cherche ce soir va te trouver. Que ton nom soit béni, parce que ton esprit va te révéler à lui. Amen. Merci Seigneur. Quelqu'un a pu vérifier que cette parole est vraie, que quand on cherche Dieu, on le trouve, et au-delà de simplement trouver Jésus, trouver Dieu, eh bien on trouve le bonheur. On trouve, eh bien, plus que simplement rencontrer une personne, on trouve, eh bien, celui qui peut nous guérir, nous sauver. Et je vous invite maintenant à faire une lecture qui sera le centre de notre réflexion ce soir. Trois versets, Marc, évangile de Marc au chapitre 1 et verset 40. Ce soir, j'aimerais vraiment parler avec vous de Jésus qui guérit un lépreux, mais aussi de Jésus qui sauve un pécheur. On va voir que dans trois versets, il y a tout ce message-là. Un lépreux vint à Jésus et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. Vous êtes heureux pour lui ? Moi, je suis heureux pour lui. Quand je l'ai lu, ce texte, ce récit, quand je l'ai lu, je l'ai relu, c'est bien, c'est trois versets, c'est pas long, mais c'est une histoire formidable. Et j'ai vraiment de l'amour, enfin en tout cas de la joie pour cet homme-là. Je dis, c'était un homme lépreux. Un homme qui était malade, couvert peut-être de sa lèpre, empêché, eh bien comme ça l'était à l'époque, empêché d'être dans sa famille. On sait que par souci d'hygiène, il y avait une loi qui était là lorsque quelqu'un était atteint par la lèpre, pour pas que sa famille soit contaminée, pour pas que la ville ne soit contaminée, il était interdit de séjour et il était mis à l'écart. Et cet homme était obligé de se tenir à l'écart. Il y avait même quelque chose qui nous disait, une loi qui nous est rapportée encore dans la Bible, qui disait que cet homme-là, cette femme-là, devait crier devant lui, devant elle, impur, impur. Impur, impur, et il devait porter des vêtements tout déchirés, des haillons. Il y avait vraiment quelque chose, une vie particulière pour cet homme à ce moment-là, et cet homme va chercher Jésus. Sûrement qu'il a entendu parler de tous les miracles que Jésus a déjà fait. Sûrement qu'il a eu des échos, puisqu'il nous est dit qu'il s'est jeté à genoux aux pieds de Jésus et qu'il l'a supplié. Et il va dire quelque chose d'extraordinaire, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il sait ce que Jésus peut faire à ce moment-là. Et cet homme, son histoire, c'est un lépreux guéri par Jésus. Mais on va voir et on voit aussi que dans la parole de Dieu, la lèpre est aussi l'image du péché. Et cette histoire, ce récit, nous raconte de manière très précise comment quelqu'un, comment un pécheur peut être sauvé de son péché. Comment est-ce que cela peut être possible? Et on va voir comment Jésus va s'y prendre pour guérir ce lépreux. Trois choses qu'il va faire, trois étapes pour guérir ce lépreux. Verset 41, dans un verset, il y a toute la solution. Un verset, le verset 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » La première chose, ça se passe au niveau intérieur. Il est ému de compassion. Est-ce que vous la voyez? Ça a quelle couleur, la compassion? Vous la voyez, vous, la compassion? Moi, je ne la vois pas. Quelque chose qui se passe à l'intérieur, qu'on pourrait garder caché. Mais Jésus a étendu sa main et il a touché ce lépreux. Il a fait un geste. Ce qui se passait à l'intérieur, il a extériorisé, il a manifesté par un geste. Et la troisième chose qu'il a fait, il a parlé, il a dit quelque chose. Et le résultat de ce processus, c'est que cet homme a été complètement guéri de sa lèpre. Et pour nous sauver, c'est la même chose. Il nous est dit que dans le cœur de Dieu, Dieu est ému de compassion en voyant la foule que nous sommes, le monde. Je l'ai dit, le regard de Dieu parcourt toute la terre. Comment Dieu regarde le monde? Est-ce que vous croyez que Dieu le regarde avec la volonté de le punir, lui qui est pécheur? Est-ce que Dieu, en voyant la misère qu'il y a dans notre monde, la violence, les guerres, les disputes, l'orgueil, chacun pour soi? Est-ce que vous croyez que Dieu regarde le monde avec vraiment amertume, avec la volonté de le détruire? Ou est-ce que vous croyez plutôt que Dieu a un regard d'amour posé sur le monde? Il nous est dit dans un autre texte qu'à un moment, Jésus a vu quelqu'un et il nous est dit qu'il a pleuré. Il a pleuré devant un tombeau. À un autre moment, à beaucoup de moments, il est dit qu'il est ému devant la foule, ému de compassion. C'est exactement ce qui se passe dans le cœur de Dieu lorsqu'il regarde notre monde. Il cherche s'il y a quelqu'un qui le cherche à lui. Il regarde parce que Dieu veut sauver les hommes. Dieu veut les sauver de leur misère. Dieu veut les sauver de leur ivrognerie, de leurs mensonges, de leurs péchés en tout genre. Parce que Dieu aime l'homme. Dieu a compassion de l'homme. Et ce n'est pas quelque chose que j'invente. C'est quelque chose qui est inscrit profondément dans la parole de Dieu. Et si vous parcouriez la parole, vous verriez à plusieurs endroits que Dieu a compassion de l'homme. J'ai relevé quelques textes, bien sûr, que je vous cite. 2 Samuel 24:14, il est dit, c'est David qui parle, « Ses compassions sont immenses ». Et le contexte, c'est David a fauté, il a fait un péché grave devant Dieu. Et Dieu lui propose quelque chose. Il y a quelque chose qui lui est proposé. De tomber dans les mains des hommes, une armée qui vient sûrement, qui vient le détruire, et ou alors de tomber dans les mains de Dieu. Et il va dire, je préfère tomber dans les mains de Dieu, parce que Dieu a des compassions qui sont immenses, immenses. Un autre endroit dans le livre des Psaumes, il est dit que comme un père a compassion de ses enfants, eh bien Dieu a compassion de l'homme. Vous voulez le prendre avec moi, on va faire quand même quelques lectures dans Psaume chapitre 103 et verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et je vous cite un autre texte. Dans Lamentations, chapitre 3, verset 22, « Ces compassions ne sont pas arrivées à leur terme. » Si à l'époque, il y a des milliers d'années que ces textes ont été écrits, si à l'époque, les gens ont pu remarquer que Dieu avait une compassion immense pour l'homme, pour l'être humain, il est dit que ces compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Et je crois que cette parole est encore valable aujourd'hui. Le regard de Dieu n'est pas un regard accusateur, mais un regard d'amour qui veut sauver les hommes. Et comme si ça ne suffisait pas, on sait que ça, c'est vrai, la compassion, Dieu m'aime. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi? J'entendais ça dernièrement. Une dame, une personne, me disait, oui, mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez ce que c'est que la définition de compassion? C'est un sentiment qui porte à plein de quelqu'un, mais pas plein de, oh, le pauvre, mais au point de porter sa souffrance avec lui. Et Dieu, d'un sentiment qui était dans son cœur, qui est dans son cœur, d'un sentiment d'amour, de compassion, il a exprimé cet amour et il l'a manifesté par un geste. Il nous est dit que Dieu, qui a eu compassion des hommes, a voulu les sauver et il est venu dans la personne de Jésus, non pas simplement pour souffrir avec, pour porter avec, mais pour porter tous nos péchés, tous nos fardeaux et les clouer au bois de la croix. C'est dans Romains chapitre 5 et au verset 7, je le lis. « à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Non seulement Dieu a de l'amour dans son cœur pour les hommes, mais il l'a manifesté, il a fait un geste, il a donné son propre Fils pour qu'il porte le poids de nos péchés, les conséquences de nos péchés. Et Jésus nous a dit qu'il a manifesté aussi son amour en montant sur le bois de la croix. Alors qu'il avait fait du bien autour de lui, qu'il avait entre autres guéri ce lépreux, eh bien il est allé jusqu'au bois de la croix. Il a porté tous nos péchés. Et de la même manière qu'il est passé par ce processus pour guérir ce lépreux, eh bien il nous a dit qu'il nous a guéri de nos péchés, il nous a sauvés de nos péchés. Non seulement parce qu'il avait de l'amour à l'intérieur dans son cœur, mais parce qu'il a manifesté son amour en montant sur le bois de la croix. Combien de personnes chantent l'amour ? Dans notre monde, il y a beaucoup de chants sur l'amour. On chante l'amour, on parle de l'amour. Mais qui l'exprime vraiment comme Jésus l'a fait ? Personne. Au point de donner sa vie pour vous. Il nous est dit que Dieu a donné son Fils, Jésus est venu sur la terre et qu'il a donné sa vie sur le bois de la croix. Il a été cloué, percé, il a souffert. Il n'a pas souffert avec nous, il a souffert pour nous. Et il a même souffert à notre place. Parce qu'il est dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la souffrance éternelle en enfer. Et Jésus l'a subi sur le bois de la croix pour que nous n'ayons jamais à la subir. Et il ne s'est pas arrêté là. Jésus, on a vu que, alors qu'il a étendu la main, qu'il a touché ce lépreux, lui qui était intouchable, Jésus a posé sa main sur lui, comme Dieu a touché la terre en posant ses pieds dans la personne de Jésus. Et il a dit une parole, Jésus, « Je le veux, sois pur. » Voilà la volonté de Dieu pour nous. « Je le veux, que tu sois sauvé, que tu sois pardonné de tes péchés. » On l'a chanté, on n'a fait que le chanter. Jésus guérit, Jésus sauve. Dès le premier chant, à plusieurs reprises, on a chanté que Jésus est tout puissant pour nous guérir, il est tout puissant pour nous sauver. C'est exactement ce qui est écrit dans ce texte, que Jésus guérit et dans toute la parole que Jésus sauve en payant à notre place. Et cette parole qu'il a dite à cet homme, pour nous sauver, c'est la parole que Jésus a laissée. Jésus a laissé un enseignement, ce sont les évangiles. Les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, sont le rapport des paroles que Jésus a dites lorsqu'il était sur cette terre. Les épîtres sont les explications de ces paroles que Jésus a dites. L'Ancien Testament, l'Apocalypse, toutes ces choses sont des paroles de Dieu pour conduire les gens au ciel. C'est comme une carte qui vous guide jusqu'au ciel. Il est écrit aussi que la parole est une lumière à mes pieds, une lampe à mes pieds, pardon, une lumière sur mon sentier. C'est un guide. Et si je me dirige d'après la parole de Jésus, alors je vais être sauvé. Je vais être sauvé de toutes mes iniquités, de tous mes péchés. Et on a bien vu dans ce verset 42 que la lèpre le quitta. La lèpre n'a pas simplement régressé. Ça n'est pas allé en s'améliorant simplement. La main de Jésus qui a touché ce lépreux, ce n'était pas pour camoufler les taches de lèpre, les plaies de lèpre de cet homme. Mais c'était pour que la lèpre quitte cet homme. Et de la même manière que Dieu veut sauver les hommes, il ne veut pas simplement les pardonner. Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix n'était pas là simplement pour camoufler les péchés. Mais il était là pour guérir du péché, pour sauver du péché, pour délivrer du péché. Et cette parole-là, c'est la parole qui est la vérité. Dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus disait « Ta parole à Dieu, ta parole est la vérité. » Et dans Jean 8, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Dieu ne veut pas camoufler le péché, Dieu ne veut pas simplement pardonner le péché, mais il veut délivrer du péché. Si quelqu'un ce soir est prisonnier de la cigarette, Dieu peut vous délivrer de la cigarette, il l'a fait pour moi. Il le fera pour vous. Si quelqu'un est prisonnier de l'alcool, Dieu peut vous délivrer de l'alcool. Si quelqu'un est prisonnier du sexe ou de toutes sortes d'autres choses, Dieu peut vous délivrer. Est-ce qu'on peut tout demander à Dieu ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il a dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Qu'est-ce que Dieu veut ? On est étonné de voir dans la parole de Dieu que quelqu'un a prié pour que la pluie tombe. Est-ce qu'on peut prier pour que la pluie tombe ? Tiens, ça c'est une question. Il le dit, si tu le veux. C'est une marque aussi de si Dieu le veut. Dieu ne fait pas ce qu'il ne veut pas. Je peux demander à Dieu, je voudrais gagner au loto. Tiens, je voudrais gagner au loto. Est-ce que Dieu va me le donner ? Je crois que ce n'est pas ça que j'ai besoin. c'est pas de gagner au loto dont j'ai besoin. Un jour, j'ai vu un pasteur qui a trouvé un ticket de loto pas encore passé. La date n'était pas encore passée. Il l'a trouvé dans la rue. Et puis, il avait pour projet d'acheter une nouvelle église. Ils étaient en train d'acheter, de préparer tout ça. Et il s'est dit, il a eu la brillante idée de croire, peut-être que Dieu a prévu que j'allais trouver ce ticket de loto pour que j'ai l'argent pour acheter une église. Il ne savait pas comment ils allaient faire. Il a dit, mais peut-être que c'est la solution de Dieu, ce ticket de loto. Et alors, il a quand même dit, attends, pasteur, quand même, pasteur. Et puis il avait le doute et il était, je ne sais pas trop, hein, entre deux chaises. Et puis, arrivé le soir, il a regardé et puis il a commencé. Est-ce que c'est le bon ticket? Est-ce que c'est le bon numéro? Et il a regardé. C'est pas le bon numéro. C'était pas le plan de Dieu. C'est pas étonnant. Mais il a remarqué quelque chose. C'est que c'était très vite un piège que de s'attacher à des choses comme ça. Il a regardé, il a réanalysé toute sa démarche. Et il a commencé à se dire, mais comme j'étais accro, comme j'étais là à espérer. Et puis, si j'ai fait ça là, c'est pour dire vraiment l'état de son esprit, l'état de son cœur. Il s'attendait. Est-ce que, et l'espoir, etc. Et moi, je crois que tous ces jeux d'argent, c'est un piège. C'est un piège. Et Dieu n'est pas pour le hasard, pour miser au pif. Dieu ne veut pas qu'on joue avec la chance, avec l'argent même. Dieu veut qu'on soit économe. Dieu veut qu'on lui fasse confiance pour l'argent, pour qu'il nous donne ce qu'il faut. Parce que sinon, on va dire, mais Dieu, peut-être il voudrait que je vole pour avoir de l'argent. C'est peut-être sa solution. Je vais emprunter sans rendre. C'est comme ça. Quelqu'un disait, voler, c'est ça. C'est emprunter sans rendre, en oubliant de rendre. Mais non, moi, je crois que Dieu dit, fais-moi confiance, je pourvoirai à tes besoins. Mais pas après pas. Pas après pas. Et on voit que dans cette démarche, Dieu veut nous délivrer complètement, nous affranchir du péché. Peut-être que quelqu'un ce soir est prisonnier des jeux d'argent, un petit ticket à gratter, quelque chose. Ne faites pas confiance à un ticket. Faites confiance à Jésus. Ça vaut mieux. Moi, je dis, je gagne tous les jours. Je gagne tous les jours, moi, au loto. Pourquoi? Parce que ce que les gens mettent, moi, je le dépense pas. Donc forcément, s'ils mettent 10 euros, je gagne 10 euros tous les jours. Voilà. Et oui, faisons confiance à Dieu. Il a des hasards pour nous, hein, comme quand il a dit d'aller pêcher le poisson et que dans le ventre du poisson, il y avait l'argent qu'il fallait pour payer les impôts, pour payer la taxe. C'est écrit, hein, et il l'a fait. Alors Dieu peut faire des choses miraculeuses. Comptons sur lui. Comptons sur lui. Et il dit que sa parole est la vérité. Il peut nous affranchir. Il peut nous affranchir. Prier pour la pluie. Mais il l'a fait. Et Dieu a exaucé. Dieu a exaucé. C'était dans la volonté de Dieu. Un jour, Stéphanie, elle compose des chants. Elle a 40 ou 50 chants qu'elle a composés. Et on voulait exposer ces chants en plein air, sur un stade. Alors on a fait ça simplement. C'était très très simple. Et on avait prévu. Et la météo disait toute la journée, une pluie torrentielle. On s'est dit, peut-être c'est pas la volonté de Dieu. Puis après, on a dit, ben, on va voir. Peut-être aussi il y a des combats des fois. Ah, Seigneur, on va prier. S'il te plaît, si tu permets que la pluie ne soit pas au rendez-vous, hein, des fois elle est bonne la pluie aussi, hein, mais là, s'il te plaît, si tu pouvais permettre qu'il n'y ait pas la pluie, eh bien voilà. Et puis, que vous me croyez ou pas, au moment où on a installé la sono, où on a voulu installer la sono, la pluie s'est arrêtée. Et au moment où on a rentré le dernier matériel de sono après toute l'exposition des chants, eh bien, la pluie s'est remise à pleuvoir. On peut tout demander à Dieu. Il faut par contre avoir l'humilité de lui dire, Seigneur, si tu veux. Et maintenant qu'on a vu ce que Jésus a fait, la part de Jésus, on va voir comment être au bénéfice de cette guérison et de ce salut, très simplement. Comme Jésus s'est exprimé, cet homme a fait la même chose, dans son cœur, de manière cachée. Cet homme avait un vif désir, celui de rencontrer Jésus, celui d'interpeller Jésus, celui de prier Jésus. Il y avait un désir qui était dans son cœur, ça personne ne pouvait le voir tant qu'il ne l'exprimait pas. Il y avait quelque chose qui était là. Et puis ce désir, ce qui était dans son cœur, s'est manifesté par des gestes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est dit qu'il s'est jeté à genoux. Il s'est jeté à genoux. Il y a eu le geste qui allait avec. Des gens disent beaucoup, moi je crois en Dieu. Mais oui, j'y crois en Dieu, j'y crois. Mais ils se mettent à mentir et ça leur fait rien. C'est des gros menteurs et ça leur fait rien du tout. Vous croyez en Dieu? Oui, je crois en Dieu. J'ai même fait ma première communion, qu'ils disent. Ou alors je me suis même fait baptiser, certains. Et ça vous fait rien de mentir? Ah non, non. Ça vous fait rien de coucher avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié? Non, rien du tout. C'est comme ça. Ça vous fait rien? Tout à l'heure, quelqu'un dans une visite m'a dit que, toute petite, sa maman lui a dit, c'est pas bien de mentir. C'est pas bien de mentir. 2 jours après, Sa maman, elle lui dit, tu dis ça. Et c'est un mensonge. Et la petite fille regarde sa mère et elle dit, mais maman, tu m'as dit que c'était pas bien de mentir. Oui, mais des fois, c'est mieux quand même pour les gens. Le monde va mal. Le monde va mal. Hein? Quand des fois, on a des pensées, mais qui ne s'expriment pas par les actes dans la vie. Il faut que nos pensées, nos paroles, soient en conformité avec notre manière de vivre. Voilà comment on obtient le salut, la guérison de nos péchés. Cet homme, non seulement il a eu la soif de rencontrer Jésus, il a eu soif de Dieu, mais en plus il a eu le geste qui allait avec. Il s'est mis, et pas dans n'importe quelle position, il s'est mis à genoux. Il n'est pas venu la tête haute devant Jésus, voilà mon problème. Il est venu à genoux et il s'est jeté aux genoux de Jésus. Quelle belle position, quelle belle attitude. C'est exactement l'attitude qui convient devant Dieu, une attitude d'humilité. Et il va dire quelque chose. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ce qu'il a dans son cœur, ce saint respect qu'il démontre par son geste, cette foi qu'il démontre par ses paroles, si tu le veux, tu peux. Je sais que tu peux. Il est convaincu dans son cœur. Il a la foi, cet homme. Et c'est pourquoi, juste après, Jésus va lui répondre favorablement et va le guérir. Alors, je vous poserai simplement une question. Comment réagit votre cœur face à la croix? Dans votre cœur, ce que personne ne voit. Comment vous comportez devant la croix? Ce que Jésus a fait. Payer pour vos péchés. Payer ce que vous auriez dû payer. Subir ce que nous aurions dû subir, parce que je me mets aussi dedans. Comment est-ce que notre cœur réagit? Comment nous réagissons dans nos pensées? Quelle est notre attitude face à la croix? Ça, c'est des histoires de grand-mère. Ça, c'est pour les bébés, ou alors ces histoires de bébés, ou les histoires de grand-mère. Hein? Jésus dans la crèche, là, c'est pour Noël. Ou est-ce que vous avez une attitude d'humilité? Avez-vous déjà critiqué la Bible? Critiquer Jésus, critiquer Dieu, ah s'il y avait un bon Dieu. Avez-vous déjà fait des reproches à Dieu? Vous êtes-vous déjà moqué de Dieu ou des chrétiens, de ceux qui lui appartiennent? Vous êtes-vous déjà moqué d'une église, peut-être de celle-là en passant devant? Quelle attitude vous avez? En tout cas, moi je vois que le lépreux, il est rentré chez lui joyeux. Comment il est rentré? Lui qui pouvait plus aller chez lui. Lui qui pouvait plus rentrer dans la ville, lui qui devait crier impur, impur, qui n'avait pas le droit de porter des habits propres et beaux. Cet homme, je suis sûr, première chose, il a dû prendre, je ne sais pas, une douche, non même pas, il a dû foncer chez lui, il a dû aller chez lui, toc, 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 ouvre-moi, mais qui c'est? C'est moi, je suis guéri, comment ça, t'es guéri, attends, je te dis, je suis guéri, regarde, je suis guéri, comme un homme a fait un jour à une réunion en sortant, il était plein de psoriasis, mon papa a imposé les mains à cet homme, il s'est approché pour la prière, on lui a imposé les mains, il est sorti, et au moment où il est sorti, il a regardé son ventre, il est rentré, il montrait son ventre, je suis guéri. Il a fallu qu'il nous explique et on n'a pas compris sur le moment. Je suis guéri. Peut-être cet homme a soulevé son t-shirt, j'en sais rien. Je suis guéri. Quelle joie. Seigneur, il m'a guéri. Jésus, je savais bien qu'il pouvait le faire. Il a voulu, il a eu pitié de moi. Gloire à Dieu. Ah, vaut mieux avoir cette attitude. Hein. S'humilier pour un temps. Faire confiance. Avoir du respect pour Dieu. Avoir de la foi en Jésus. Et pouvoir repartir tout heureux, tout guéri, tout pardonné. L'assurance d'aller au ciel, que de dire « Moi, je n'ai besoin de personne. » Et on sait quelle fin attendra tous ceux qui n'auront pas voulu de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ à la croix. Alors, comment voulons-nous partir? C'est très simple ce soir. Comment voulons-nous partir? Fier, avec notre orgueil, peut-être la peur d'être trompé, peut-être le doute, est-ce que c'est valable pour moi? Laissez tout ça de côté. Faites confiance à Jésus, croyez, ayez du respect pour lui. Dites, oh, tu as fait ça pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Parce qu'à cause de mes péchés, tu as souffert, tu es mort à la croix. Je te demande pardon, oh, tu as fait tout ça. Je te dis merci, aie pitié de moi maintenant. Vous aussi, dans votre cœur, changez d'attitude. Repentez-vous, c'est ça que ça veut dire. Ayez les gestes qui conviennent. C'est-à-dire, humiliez-vous. Ce n'est pas forcément se mettre à genoux physiquement, bien que. C'est peut-être possible aussi. Avant, il y avait le banc des pénitents. Les gens s'approchaient pour répondre à l'appel, se mettaient à genoux devant et confessaient leurs péchés. Oui, ouvrez la bouche, dites quelque chose à Jésus. Je sais que si tu le veux, tu peux le faire. Parce que tu as dit que tu voulais le faire, je crois que tu vas le faire. Amen. Tu me pardonnes de tout péché. Amen, on incline nos fronts. Alléluia. Seigneur, trois versets qui nous racontent ta puissance, ton amour, ta force et ta fidélité. Parce que ce que tu dis, tu l'accomplis, Seigneur. Ce que tu as promis, ton regard est posé dessus pour veiller sur ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Tu es puissant, rien ne t'est impossible, même faire tomber la pluie du ciel. Si une terre, la terre d'un cœur, est desséchée, eh bien tu peux faire couler une pluie, ta bénédiction, ta présence sur ce cœur, et le restaurer, le rendre fertile, et que dans son cœur il y ait des sujets de joie qui naissent et qui poussent, des actions de grâce. Que ton nom soit béni pour ces récits que tu nous as donnés d'avoir aujourd'hui, et qui nous racontent combien tu es compatissant, lent à la colère, riche en bonté, combien tu aimes le monde et combien tu nous aimes personnellement. Je t'aime, Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi et je te prie encore d'agir ce soir envers tous ceux qui auront foi en toi et qui te respecteront. Que ton nom soit béni. Amen.